Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Bali Bagayoko, chef de file de la France Insoumise à Saint-Denis, ancien vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Bali Bagayoko, vous soutenez la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Pour vous, quels sont les enjeux de ce scrutin de 2022?
Là, nous avons un scrutin qui est un scrutin majeur, un scrutin où la personne qui est la mieux placée pour aujourd'hui contredire à la fois l'idéologie de l'extrême droite et de la droite extrême portée par Macron, c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Les éléments aujourd'hui qui nous semblent essentiels à prendre en considération, c'est que plus la situation s'aggrave, et malheureusement, plus nous avons la nécessité de trouver des solutions concrètes. Et dans l'Union populaire, qui est le mouvement porté par Jean-Luc Mélenchon, qui est une démarche beaucoup plus large d'ailleurs que la France insoumise, et qui permet à des gens qui ne sont pas forcément familiers des partis politiques traditionnels de pouvoir rentrer dans la dynamique, est véritablement la solution pour porter cet espoir de la 6ème République, parce que le cœur, en fin de compte, de l'ensemble des éléments programmatiques portés par Jean-Luc Mélenchon vise à réinterroger la place du peuple, en fin de compte, dans les décisions majeures qui concernent la vie de la société en général.
On va parler de l'abstention, on va parler des jeunes aussi dans un instant. Mais d'abord, les sondages montrent que les Français sont préoccupés avant tout par leur pouvoir d'achat, mais aussi par la santé, l'environnement et l'écologie, les retraites, l'emploi, les inégalités et les injustices sociales. C'est vrai notamment dans votre département, la Seine-Saint-Denis. Ce sont des questions sociales qui arrivent en tête, des préoccupations des gens que vous rencontrez au quotidien.
Clairement, c'est principalement la première préoccupation des habitants de Seine-Saint-Denis. On a une situation de chômage qui est extrêmement importante, une situation de paupérisation de la population qui est aussi plus en plus importante. La crise sanitaire qui est encore devant nous n'a pas fini encore d'avoir des conséquences dramatiques sur ces populations. C'est la raison pour laquelle il y a nécessité d'avoir des propositions extrêmement fortes qui visent bien sûr d'abord à protéger les populations. Et donc on a la première proposition d'ailleurs qui est plein dans la situation actuelle que nous vivons, c'est monter les prix de l'énergie, où nous proposons directement le blocage purement et simplement en fin de compte de l'impact en fin de compte de cette hausse, ce qui est un élément à la fois de préservation du pouvoir d'achat des gens les plus fragiles et ce qui permet aussi de pouvoir soutenir toutes ces populations qui aujourd'hui ont une véritable difficulté. Mais c'est aussi l'avènement que nous portons depuis maintenant plusieurs années, la nécessité d'avoir un SMIC minimum à 1 400 € net pour justement donner un coup de pouce majeur à la fois au pouvoir d'achat des populations. Et puis c'est un grand plan sur la question de l'emploi et qui sera permis par la question de prendre en considération les nouvelles technologies, parce qu'on sait qu'on a aujourd'hui les énergies renouvelables qui sont véritablement des vrais moyens de pouvoir produire en fin de compte de l'emploi. Et c'est aussi dans ce chemin-là que nous allons pouvoir aussi apporter des réponses concrètes. Puis après, on a, de manière assez importante, la nécessité d'apporter des réponses concrètes au quotidien des gens, c'est-à-dire c'est le pouvoir d'achat, mais c'est aussi le logement. Comment on fait dans des territoires où les choix qui ont été faits dans le passé visaient à réduire la place du logement social, par exemple, comment on contrarie ça? Nous proposons bien sûr la production importante de logements sociaux, et diversifier aussi pour permettre à ce que les populations puissent pouvoir aussi vivre dignement sur nos territoires.
Bali Bagayoko, Jean-Luc Mélenchon et son équipe de campagne sont persuadés qu'un vivier de voix existe parmi les abstentionnistes qui ne sont pas pris en compte dans les enquêtes d'opinion. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français qui ne se sentent pas concernés par cette élection présidentielle, ces Français qui traditionnellement ne vont pas voter?
Ce qui est certain, c'est que l'abstention, malheureusement, profite toujours au système en place. Et donc la question qui est posée dans ceux qui sont abstentionnistes, sachant que l'idée n'est pas de leur jeter de l'anathème, parce que dans l'abstention, il y a tout un certain nombre de messages, donc du coup, y compris des messages politiques qu'il faut entendre. Le fait que ces abstentionnistes renvoient aussi à l'ensemble des écuries politiques, le fait qu'ils en ont marre, en fin de compte, de dire à la fois des promesses sans lendemain, du fait que les politiques n'agissent pas forcément toujours dans la préservation de leur situation singulière et collective, et que c'est au nom de ça, en fin de compte, que nous disons qu'il faut à la fois être dans une démarche, d'éducation populaire, c'est-à-dire de simplifier de plus en plus, en fin de compte, le discours politique. La deuxième chose, c'est aussi de faire en sorte que les hommes et femmes aujourd'hui qui sont en responsabilité soient le plus en phase, et donc du coup soient vraiment à l'image de la population française, y compris dans sa diversité. Et donc tout le débat puant sur la question du séparatisme, tout le débat puant qui est porté par Marine Le Pen, Zemmour et consorts, bah, véritablement montre que nous avons encore cette bataille-là à mener. Et je pense que sur la question de l'abstention, il y a aussi, et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi proposé le fait de pouvoir abaisser l'âge pour pouvoir avoir le droit de voter, hein, parce que c'est un élément aussi de clin d'œil à la génération, parce que la génération nouvelle, c'est une génération qui doit désormais être en capacité de comprendre l'ensemble de ces enjeux et puis surtout de venir réduire sous le nom de l'abstention. Et dans l'abstention, malheureusement, il y a toute une partie qui concerne les quartiers populaires, et ces quartiers populaires qui ont été pendant très très longtemps et qui sont encore d'ailleurs abandonnés par la République en général. Et il est vrai que pour ces quartiers dont je fais partie, il y a à la fois la nécessité d'avoir vraiment des propositions et des projets programmatiques qui soient complètement concrets par rapport à la situation qu'ils traversent pour pouvoir redonner un peu d'espoir. Et je pense que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, particulièrement par exemple sur Saint-Denis, mais dans Saint-Saint-Denis, qui s'était illustrée d'ailleurs en 2017 par une véritable dynamique en fin de compte qui était portée par Jean-Luc, donc il y a un véritable espoir qui est incarné dans la candidature de Jean-Luc. Désormais, il faut qu'on soit en capacité, si nous voulons, et c'est le message essentiel que je peux passer à celles et ceux qui sont dans les quartiers populaires, et à celles et ceux qui aujourd'hui considèrent que la politique ne sert à rien, mais la démonstration est faite que tous les jours, en fin de compte, la politique sert à quelque chose, parce que si nous, issus de ces quartiers populaires-là, nous ne nous occupons pas de la question de la politique, alors la politique, malheureusement, s'occupe de nos vies, et donc très souvent, on l'a vu, quand elle s'occupe de nos vies, c'est toujours au détriment, en fin de compte, je veux dire, de notre bien, et donc la raison pour laquelle il faut absolument se mobiliser, bien sûr en tant qu'électeur, en tant que citoyen, en tant que syndicaliste, en tant qu'acteur associatif, parce que on voit bien que dans la dernière séquence qui était passée, l'ensemble de celles et ceux qui parfois d'ailleurs sont dans l'abstention, ont été souvent aussi dans les luttes à nos côtés, et donc maintenant la traduction concrète de ces luttes, c'est l'occasion à ne pas louper, c'est avril 2022, la candidature qui doit permettre de redonner cet espoir-là et de la traduire en acte, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes très nombreux d'ailleurs à soutenir sa candidature, puisqu'il a bénéficié d'un parrainage de plus de 250 000 citoyens, hein, qui sont pas uniquement des gens de la France insoumise, c'est des gens un peu de partout, qui apportent leur soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, le seul d'ailleurs à avoir été incarné dans sa candidature par un élan populaire.
Bali Bagayoko, comment expliquez-vous que les préoccupations sociales soient prioritaires pour les Français et pourtant le score de la gauche est très très bas dans les sondages au premier tour?
Oui, parce que premièrement, bon, chaque industrie, parce que là pour le coup, vraiment, faut passer même pas à une industrie de sondage, c'est vraiment une industrie de sondage, c'est-à-dire que chacun dans les modèles qui font tourner font le choix soit d'extraire par exemple la partie des quartiers populaires dans leur mode de calcul, et on voit bien de manière assez de manière assez factuelle, c'est quelle que soit la configuration s'agissant de Jean-Luc Mélenchon, il est en tout cas pas dans une situation moins confortable que celle de 2017. Parce que les sondages, moyennement, le situent toujours à 11, parfois 13 dans certains cas. Rarement, certains cabinets de sondage le positionnent en dessous des 11, mais globalement, on sait que la dynamique, elle est de toute manière à gauche et dans le courant écologiste du côté de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, c'est très clair. Et donc, il y a bien sûr le travail qui est fait de SAP, hein, pour un certain nombre de cabinets de sondage. Nous disons juste une chose. Ce qui fait foi, c'est la force populaire et le saut de ces citoyens qui aspirent à un nouveau changement. Et aujourd'hui, ce nouveau changement est possible et incarné par la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Après, les sondages, on sait ce que c'est. On peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Ce qui nous semble extrêmement important, nous, c'est la campagne qui doit se faire sur le terrain.
Bali Bagayoko, les jeunes ont particulièrement souffert depuis le début de la crise sanitaire. Les jeunes, qui étaient une composante importante de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon en 2017, lorsqu'il a atteint la quatrième place avec 19,58% des voix, aujourd'hui, près de 9 jeunes sur 10 comptent aller voter. Quelles mesures seront prises pour sortir les jeunes de la pauvreté et de la précarité? Je pense notamment aux étudiants.
Nous avons, et là, l'analyse que vous faites est une analyse complètement concrète et qui, du coup, est le bilan, en réalité, je veux dire, de Macron. Et donc, face à ce bilan, la seule question qui est posée, c'est est-ce que l'on lui donne la possibilité de continuer à creuser cette inégalité, cette difficulté en direction de cette jeunesse, ou est-ce qu'on dit stop? Nous disons stop, et nous disons stop avec un certain nombre de propositions concrètes. C'est à la fois la nécessité d'instaurer un emploi spécifique jeune, donc d'une durée moyenne de 5 ans dans l'ensemble des secteurs non marchands. C'est bien sûr d'agir principalement en direction des étudiants avec un plan de lutte contre la précarité, notamment en augmentant les annuités de stage et en négociant d'ailleurs avec les branches patronales les postes qui sont ouverts, notamment pour ce qui tourne autour des stages, pour en finir bien sûr avec la pratique un peu scandaleuse des CDD qui sont en réalité déguisés. Il y a l'autre aspect dans la question de l'autonomie des jeunes qui est un vrai sujet pour nous, c'est quand même d'offrir à la fois des bilans de santé, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de ces jeunes n'avaient parfois même pas les capacités de pouvoir prendre en charge tous les aspects autour de leur santé. Et donc, du coup, nous prévoyons d'offrir le bilan de santé et d'évaluation des capacités, donc à la fois sur l'écriture, lecture et la calcul, parce qu'il y a aussi toute une question qui est posée aujourd'hui des savoirs de base, en fin de compte, sur un certain nombre de nos jeunes. Et puis, bien sûr, il y a un élément extrêmement important. La question de l'autonomie des jeunes, c'est bien sûr la capacité de pouvoir assumer la société qu'elle se présente à eux sur le plan social et économique, mais c'est aussi de leur donner des perspectives, y compris en tant qu'acteurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous ne considérons que cette jeunesse-là est une opportunité pour nous et que nous devons leur donner les moyens de pouvoir agir. Et donner les moyens pour agir, c'est aussi leur donner la possibilité d'être dans les instances de responsabilité, de pouvoir. Et donc, ça passe aussi par la question du vote en particulier.
Il y a aussi la question du nombre de places à l'université pour les jeunes bacheliers. C'est très compliqué de s'inscrire sur Parcoursup, de trouver la filière qui vous correspond. Il y a aussi tous ces étudiants brillants qui se retrouvent sans master.
Ben là, c'est très clair. Donc nous sommes pour de toute manière une refonte complète, bien sûr, du système d'enseignement, au niveau national. La question du Parcoursup, si nous venons en responsabilité, nous réinterrogeons complètement le processus Parcoursup, parce que c'est un processus qui est un processus au-delà du processus un peu systémique, numérisé, mais qui en réalité est un système qui produit, qui renforce les inégalités. Donc nous considérons que nous devons mettre un arrêt pur et simple, je veux dire, à ce processus-là. Et après, il y a bien sûr la question de la qualité des enseignements, la qualité, y compris, je veux dire, du nombre d'enseignants qu'il doit avoir dans chaque établissement. Et ça se joue très en amont, parce qu'en réalité, dans nos quartiers populaires, les inégalités se creusent à partir même déjà de l'enfance, en réalité. Donc, quand on passe de l'école et ensuite, bien sûr, au collège, au lycée, et ainsi de suite, chaque fois que l'État a renoncé en mettant pas suffisamment de moyens pour accompagner nos jeunes, nous l'avons payé extrêmement fortement. C'est des taux de chômage qui sont scandaleux. Donc c'est la raison pour laquelle nous considérons que nous devons, en responsabilité, demain réinterroger l'ensemble de ces aspects-là. Mais ça va aussi sur la question du soutien particulier sur tous les allocataires, ce qu'on appelle, nous, le revenu de solidarité active. Bon, il y a une grosse mobilisation qui est faite sur ce volet-là pour justement lutter contre la précarité. Nous avons quand même 10 millions de pauvres aujourd'hui en France, et dans les 10 millions, il y a quand même une proportion importante de jeunes, et particulièrement ceux qui sont plus de 300 000 à ne pas avoir de domicile fixe. Donc on a un vrai sujet à la fois de société qui portait là, et c'est la raison pour laquelle nous considérons que la question d'atteindre le zéro sans-abri, ce qui était d'ailleurs une des grandes déclarations qui avait été faite par Macron, mais qui a accouché en fait comme d'une souris, nous considérons que nous devons le traduire en acte, et nous allons proposer, dès qu'on nous sera en responsabilité, la question du doublement, par exemple, des places d'accueil, ce qui montrait en fait le chiffre de 100 000. Donc voilà, on a un certain nombre de propositions qui sont concrètes, qui permettent de répondre de manière concrète et factuelle aux réalités auxquelles, bien sûr, les étudiants, mais les jeunes en général, sont confrontés, ainsi que leurs familles.
Mali Bagayoko, Éric Zemmour cible notamment votre ville de Saint-Denis et plus généralement le département de la Seine-Saint-Denis, qu'il accuse d'être un territoire colonisé par l'islam, où la loi de la République ne serait plus respectée. On se rappelle aussi que la ville de Trappes a été récemment visée par ce type d'accusation. Comment est vécu localement ce dénigrement chez les gens que vous rencontrez tous les jours ?
Ben c'est très mal vécu, premièrement parce que qui peut pas être candidat en réalité, parce qu'on ne peut pas être candidat à la fonction suprême d'un État comme la France, lorsqu'on connaît la France, bien sûr, qui est une terre à la fois qui a été construite par une succession, d'immigrations successives, qui fait aujourd'hui la France singulière que l'on connaît, diverse, mais qui me pote, et être complètement, en irresponsabilité en tenant des propos comme ça, en insultant C'est pas la première fois que Zemmour le fait, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'un certain nombre de médias lui permettent de le dire, c'est pas la première fois non plus qu'un certain nombre de courants politiques à droite continuent y compris à tenir ce discours-là. Le débat sur le séparatisme a ainsi engendré en fin de compte ce type de construction intellectuelle dans la société. Donc nous à Saint-Denis et dans les quartiers populaires, nous nous sommes sentis à nouveau insultés par, entre guillemets, je veux dire, un candidat insignifiant, quels que soient d'ailleurs les sondages qu'on peut lui prétendre. Nous disons juste que nous ne pouvons et nous ne laisserons jamais quelqu'un nous insulter comme Zemmour l'a fait, mais comme d'autres l'ont fait précédemment lui. Et donc ça, c'est une réalité constante, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas, nous, les jeunes et habitants des quartiers populaires, être uniquement les marchepieds quand il faut aller aux urnes, et une fois que certains ont fait le choix électoral, de considérer que nous étions leur principal adversaire, et de nous insulter, prenant la situation de Saint-Denis comme étant, y compris une Saint-Denis où on est capable d'accueillir le monde avec la Coupe du Monde, à la fois les différentes Coupes du Monde qui ont pu avoir lieu sur Saint-Denis, on est capable d'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques, et nous avons un candidat à la présidence suprême qui se permet de dire qu'en fin de compte, on est juste une réserve de terroristes et de délinquants, ce qui est complètement irresponsable. Et nous lui disons juste une chose, c'est que bah, que les mêmes propos, plutôt que de le dire dans les beaux quartiers, qu'il soit en capacité, c'est le courage politique de venir s'amener et de dire. Et on verra comment il sera reçu. Voilà, parce que je pense que personne n'accepte d'avoir ce crachat de quelqu'un, entre guillemets, qui est quand même aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle et qui crache en fait compte au visage d'une grande partie de la population française. Ne lui déplaise, on est français. Moi, je suis français, je suis Bali Bagayoko, je suis né en France, je suis marié. Ma femme est tunisienne, mes enfants sont métissés, moi je suis d'origine, mes parents sont d'origine malienne, et c'est tout ça qui fait la richesse de la France. Voilà.
Comment convaincre les électeurs préoccupés par l'environnement de voter pour Jean-Luc Mélenchon plutôt que pour le candidat écologiste ?
Ben voilà, le candidat écologiste n'est que le candidat écologiste, et puis avec quand même des positions qui sont assez ambiguës sur les questions de la laïcité, sur la question des quartiers populaires. Moi, j'ai jamais quasi entendu parler de ça. C'est quasi un impensé pour lui. J'aurais préféré plutôt Madame Rousseau, qui, sur le plan écologique, a une structure intellectuelle, une vision qui est d'ailleurs très proche, d'ailleurs, de ce que nous portons au niveau de l'avenir en commun. Donc, Yannick Jadot, avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui, en réalité, n'est qu'une candidature de diversion supplémentaire. Et dans cette course, en fait, à la diversion, on peut y rajouter Madame Hidalgo, on peut rajouter à la fois des candidatures qui sont plutôt des candidatures de témoignage, y compris celle du Parti communiste français. Tout ça, pas sérieux. Et j'ai envie de dire, là, on est quand même dans une approche qui est une approche irresponsable, une approche suicidaire. À l'heure où la gauche plus que jamais doit être capable de se rassembler, elle fait le choix, certains travaillent uniquement sur ce chemin-là, de la division. Jean-Luc Mélenchon a continué, y compris à Reims, à tendre la main à toutes celles de ceux qui le souhaitent, puisque l'union n'est pas possible avec les écuries politiques traditionnelles, alors l'union doit et continuera à se faire avec la population, c'est la question, et c'est pour ça que l'on a créé la question de l'union populaire, qui est désormais la dynamique autour de laquelle nous nous retrouvons tous.
Merci Bali Bagayoko. Je rappelle que vous êtes chef de file de la France Insoumise à Saint-Denis, ancien vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
Bonsoir, merci à vous de votre accueil.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.